écoutez RFI, il est 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Le journal, bonjour Martin Guez.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
À la une, ces négociations à Riyad, les États-Unis dans un rôle de médiateur entre l'Ukraine et la Russie.
Délégation russe attendue ce lundi dans la capitale saoudienne, alors qu'hier, les émissaires ukrainiens ont évoqué des discussions constructives avec les Américains en vue d'un accord de trêve. Comment sont perçues ces discussions depuis Kiev ? Nous poserons la question à notre correspondante en Ukraine, Emmanuel Chaz, dès le début de ce journal.
À Gaza, le cap des 50 000 morts dépassé ce week-end.
Selon le ministère de la Santé du Hamas, des chiffres jugés fiables par l'ONU, Gaza bombardé à nouveau par l'État hébreu, des tirs sur un hôpital de Khan Younes et nouvelle offensive hier à Rafah, dans le sud de l'enclave. En Corée du Sud, le Premier ministre et président par intérim, Han Duck-soo, sauve sa peau, sa destitution a été retoquée par la Cour constitutionnelle du pays. Calme relatif et situation confuse à Walikale Centre, dans l'est de la RDC, ville du Nord Kivu, prise par le M23 mercredi, qui annonçait s'en retirer ce samedi, mais des membres du groupe armé étaient toujours signalés dans la localité ce dimanche. Enfin Marion, on allumera Netflix en fin de journal pour voir Adolescente, mini-série britannique coup de poing, carton du mois de mars sur la plateforme.
Nouveau round de négociations à Riyad concernant la guerre en Ukraine.
Des pourparlers indirects avec les États-Unis qui assurent la médiation. Une délégation russe est attendue ce lundi en Arabie Saoudite. L'émissaire américain Steve Witkoff, qui se montre optimiste et dit s'attendre à de vrais progrès avant d'entamer les pourparlers avec Moscou. Alors que les discussions avec l'Ukraine ont déjà commencé ce dimanche, discussions productives, fait savoir Rustam Umerov, le ministre ukrainien de la Défense, discussions qui ont notamment porté sur le secteur énergétique. On retrouve en direct de Kiev notre correspondante Emmanuel Chaz. Emmanuel, vu de la capitale ukrainienne, est-ce que cette rencontre répond aux attentes des Ukrainiens ?
Alors du côté du gouvernement, on se veut optimiste. Volodymyr Zelensky affirme que les échanges et le travail vers une paix juste pour l'Ukraine se poursuivent. Du côté de la population, il y a beaucoup de scepticisme. En revanche, quant à la bonne volonté russe de s'engager dans un processus de paix, même si la perspective d'un cessez-le-feu après 11 ans de guerre et 3 ans de guerre totale est bienvenue, sur le terrain, il n'y a encore aucun signe de velléité d'apaisement côté russe, moins encore de paix. Aucune trace non plus d'un cessez-le-feu au moins partiel annoncé par les États-Unis le 11 mars. Ici, tous les jours, les attaques russes continuent sur le front et par voie aérienne sur l'ensemble du territoire ukrainien. Hier, dans la région de Donetsk, 3 personnes sont mortes dans des attaques de drones. À Kiev, la nuit dernière, une enfant de 5 ans et son père ainsi qu'une femme de 80 ans ont été tués dans une attaque de drone. Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés à augmenter la pression contre la Russie. Il affirme dans son allocution que quelles que soient les discussions tenues avec les partenaires de l'Ukraine, Vladimir Poutine devrait être forcé à mettre fin à ses frappes et que celui qui a commencé la guerre devrait aussi être celui qui met fin.
Merci Emmanuel Chaz, correspondante de RFI en Ukraine. On reparle d'Ukraine dans un instant avec Marina Koumeda, journaliste et écrivaine, qui sera l'invitée d'Arnaud Pontus dans un quart d'heure.
Au Proche-Orient, Israël reprend ses guerres.
Au Liban, où les bombardements israéliens ont fait 9 morts ce week-end, des frappes en réponse à des tirs de roquettes depuis le territoire libanais. Et à Gaza, avec hier de nouveaux raids aériens sur un hôpital de Khan Younes qui ont fait 2 morts. Un adolescent de 16 ans et un responsable du bureau politique du Hamas, opération militaire également à Rafah. Et on retrouve en direct de Jérusalem notre correspondant Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Le cap des 50 000 morts à Gaza dépassé, le cap des 50 000 morts dépassé depuis le 7 octobre, ce qui a été franchi hier selon le ministère de la Santé du Hamas et Israël qui a donc lancé une nouvelle offensive au sud de l'enclave tout en poursuivant d'autres opérations.
Oui, un nouveau chef d'état-major et désormais un soutien sans limite de l'administration américaine. Israël a donc les mains libres dans la bande de Gaza. On peut parler d'une nouvelle stratégie de l'armée israélienne avec des attaques massives. Les militaires israéliens ont encerclé le quartier de Tel al-Sultan à Rafah pour y démanteler les infrastructures du Hamas. Une frappe également sur l'hôpital Nasser de Khan Younes. En l'espace de 24 heures, Israël a éliminé 2 responsables du bureau politique de l'organisation palestinienne, Ismaël Baroum et Salah El-Bardawil. Leur mort a été confirmée par le Hamas. On peut parler ce matin également de l'extension des opérations terrestres. Une nouvelle division de blindés de l'armée israélienne s'apprête à entrer dans la bande de Gaza. Toujours dans le cadre de cette nouvelle approche israélienne, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a fait part de l'intention d'Israël d'annexer des parties de la bande de Gaza si le Hamas ne libère pas les otages. et aussi de la création d'une administration pour ce qui est qualifié de relocalisation volontaire des Gazaouis. Elle a été officiellement approuvée hier par le cabinet israélien.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem sur RFI. L'actualité au Moyen-Orient, à retrouver également sur notre site internet, notamment cet article sur le Yémen. Les trois quarts du trafic maritime américain devant transiter en mer Rouge, qui évite aujourd'hui la zone pour éviter les frappes des Houthis. C'est à lire sur le www.rfi.fr.
RFI 15h05 à Séoul, le Premier ministre sauve son poste.
Han Duk-soo, qui échappe à une procédure de destitution invalidée par la Cour constitutionnelle sud-coréenne. Suspendu par les députés il y a 3 mois, le voilà donc réinvesti dans ses fonctions de chef du gouvernement et de président par intérim. Han Duk-soo, qui avait été accusé d'entraver les procédures contre le président Yoon Suk-yeol, destitué en décembre après avoir tenté d'instaurer la loi martiale dans le pays. Le verdict de la Cour constitutionnelle concernant la destitution de Yoon Suk-yeol, qui est, elle, attendue dans les jours à venir. C'est Sylvio Fioretti.
Une petite victoire pour les partisans du président Yoon. Son premier ministre Han Duk-soo retourne immédiatement aux affaires après le verdict de la Cour constitutionnelle prononcé ce matin. Le Parlement avait voté sa destitution le 27 décembre dernier face à son refus de nommer les juges de la Cour constitutionnelle. Ces derniers, nommés à la suite par le ministre de l'Économie devenu président par intérim, considèrent bien qu'il s'agit d'une enfreinte à la loi, mais pas suffisamment grave pour justifier une destitution. Si cette décision de la Cour conforte les partisans du président Yoon, le Premier ministre n'était pas directement impliqué dans la tentative d'imposer la loi martiale et les juges n'ont statué que sur un litige de procédure. Il est donc difficile de dire si le président Yoon Suk-yeol connaîtra lui aussi un jugement favorable. Le président Yoon attend toujours le verdict de son procès en destitution et doit comparaître aujourd'hui au pénal, toujours dans le cadre de sa tentative d'imposer la loi martiale en Corée du Sud. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Les États-Unis continuent leur politique d'expulsion.
199 migrants sont arrivés ce matin au Venezuela, un avion en provenance du Honduras avec à son bord ces personnes expulsées par les États-Unis, ce qui marque la reprise des vols de rapatriement. Il s'agit du 5e vol vers le Venezuela depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier.
L'actualité africaine et le retour au calme ce dimanche à Wali-Kalé-Centre.
Accalmie dans cette ville du Nord Kivu, tombée aux mains de la FCM-23 mercredi dernier. Le groupe armé soutenu par le Rwanda qui annonçait ce samedi son retrait de la localité. Hier, retour au calme donc dans la ville minière, carrefour vers Kisangani et Kindu. Mais le retrait des troupes du M23 n'est pas effectif. Ces éléments étaient toujours en ville ce dimanche, selon plusieurs témoins, François Mazet.
Après 3 jours de tirs et de bombardements récurrents, la journée de dimanche était celle de l'accalmie à Wali-Kalé-Centre. Alors que les troupes congolaises sont présentes dans les zones environnantes, le chef-lieu du territoire éponyme demeure sous le contrôle des hommes de la FCM-23. C'est ce qu'ont dit des personnes jointes sur place par RFI, comme cet habitant qui raconte les difficultés de ravitaillement.
Nous avons du mal à accéder à l'eau potable, c'est trop alarmant. Les routes sont dévastées, les maisons sont pillées, les boutiques ont été pillées partout. Les populations vivent des moments très très difficiles ici à Wali-Kalé.
Cette situation délicate a fait réagir certains acteurs politiques à Kinshasa. Le député national Michel Moto Mouima, membre de la majorité, a saisi ce week-end de la chambre basse du Parlement pour dépêcher une mission humanitaire d'urgence.
Il y a eu un mouvement de masse de déplacement de population. Une bonne partie est rentrée dans la brousse. Et là, nous comprenons que les conditions de vie sont très difficiles. Et nous estimons à plus ou moins 20 000 ménages en débandade, sans aucune assistance humanitaire et il manque de tout.
Après un dimanche de statu quo, c'est une semaine d'incertitude qui débute à Wali-Kalé.
La situation dans l'est de la RDC qui entraîne d'immenses déplacements de population, plus de 70 000 réfugiés congolais ont trouvé refuge au Burundi ces dernières semaines.
Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye est président depuis un an.
Souvenez-vous, Marion, le 24 mars 2024, le candidat du PASTEF, qui devenait alors le 5e président élu de l'histoire du pays, élu qui plus est dès le premier tour, avec 54% des voix, une première année de présidence sur laquelle on revient tout au long de la matinée sur RFI, notamment avec Stéphane Genest pour Aujourd'hui l'économie dans un instant.
Un an de présidence donc pour Bassirou Diomaye Faye, 100 jours à Matignon pour François Bayrou.
100 jours pas vraiment fêtés ce dimanche, 100 jours pour le moins mouvementé pour le Premier ministre, nommé en décembre, le 4e chef du gouvernement français de l'année 2024. En chute libre en 2025, lui qui a perdu 11 points de popularité entre février et mars, selon le baromètre IFOP. Seulement 27% de personnes interrogées se disent satisfaites de son action. François Bayrou, menacé, fragilisé par les menaces de censure qu'agitent notamment le Rassemblement National et le Parti Socialiste. Stéphane Duguay.
101e jour à Matignon, mais toujours sous pression. François Bayrou et son gouvernement savent que la menace d'être censuré plane encore au-dessus de leur tête. De l'aveu même de la porte-parole du gouvernement, on n'est à l'abri de rien, reconnaît Sophie Prima à la radio. Certes, François Bayrou a battu le record de longévité de Michel Barnier au poste de Premier ministre, mais il pourrait connaître le même sort que lui si les députés socialistes et du Rassemblement National décident à nouveau de voter la censure. Le patron du PS, Olivier Faure, prévient dans le journal Le Parisien, s'il continue à improviser, ses jours à Matignon sont comptés. Mais tant que les négociations entre les syndicats et le patronat se poursuivent sur la réforme des retraites, les troupes socialistes attendent. Même chose du côté du Rassemblement National. Sébastien Chenu, le vice-président du parti, assure que les députés RN ne s'interdisent rien. Des menaces qui ont peu de chances d'être mises à exécution à court terme, mais qui rappellent à François Bayrou l'équilibre politique fragile avec lequel il doit composer s'il veut avancer.
Stéphane Duguay du service politique de RFI.
À peine arrivé, Marc Carnet est lui déjà en action au Canada.
Premier ministre du pays depuis moins de 10 jours, en remplacement de Justin Trudeau. Marc Carnet qui convoque déjà des législatives anticipées. Les Canadiens appelés aux urnes le 28 avril prochain. Marc Carnet qui affirme avoir besoin d'un mandat fort pour faire face aux menaces de Donald Trump qui cherche selon lui à briser le Canada.
On termine, Martin, devant Netflix et ce matin on regarde, comme tout le monde, la série Adolescence.
Un carton mondial avec près de 25 millions de vues. Adolescence, numéro 1 de la plateforme, la série britannique qui n'épargne pas les spectateurs qui se retrouvent face aux violences en ligne auxquelles sont exposés les plus jeunes. Série devenue phénomène de société au Royaume-Uni. Même la classe politique réagit. Une mini-série qui s'inspire du meurtre de deux adolescentes commis en quelques semaines par de très jeunes hommes. Isabelle Chenu.
On est armés.
Vous cherchez quoi?
Papa. C'est pas la bonne maison.
Il a rien fait. Papa.
Mais c'est qu'un gosse.
Papa, j'ai rien fait, c'est pas vrai.
Jamie a 13 ans, encore un visage enfantin, quand au petit matin, le pavillon familial est pris d'assaut, défoncé par la police venue arrêter l'adolescent. Chacun des 4 épisodes de la série est tourné en un seul plan, un plan-séquence qui accentue le sentiment d'immersion du spectateur embarqué avec les parents et la sœur aînée de Jamie au commissariat où le jeune garçon est accusé d'avoir tué à coups de couteau une camarade de son collège. Ouverture choc pour cette série Adolescence et une tension crescendo devant les dénégations de l'enfant épaulé par son père jusqu'au visionnage de la sordide vérité filmée par les caméras de vidéosurveillance. Sidération, désespoir des parents, la caméra filme les ravages intérieurs des personnages et fait pénétrer chaque adulte spectateur dans les codes adolescents des réseaux sociaux, le langage, les symboles, l'idéologie masculiniste, notamment incel, comprenez des célibataires involontaires qui, face à leur peu de succès auprès des femmes, se mettent à nourrir une haine à leur égard. Une culture inconnue de la plupart des adultes et pourtant l'effrayant quotidien d'adolescents devant leurs ordinateurs dans leur chambre.
Voilà, Adolescence, mini-série, coup de poing à voir sur Netflix, mais avant le Netflix and Chill du lundi soir, je vous laisse avec Marion Cazeneuve pour la suite de RFI Matin.
Merci Martin Gaz, à tout à l'heure. Il est 7h13 à Paris. Dans quelques minutes, l'invité international de RFI, Arnaud Pontus, reçoit la journaliste et écrivaine ukrainienne Marina Koumeda. On reviendra avec elle sur ses pourparlers indirects entre la Russie et l'Ukraine en Arabie Saoudite et sous médiation américaine. On lui demandera ce qu'attendent les Ukrainiens, notamment de ces discussions, s'ils croient à un accord prochain pour un cessez-le-feu. Mais d'abord, place au sport. Avec Antoine Grenier, le football, Antoine, et ça arrive de temps en temps, l'équipe de France bascule dans l'irrationnel.
Les Bleus condamnés à l'exploit face à la Croatie en quart de finale, retour de la Ligue des Nations. Et mission accomplie. Et de quelle manière? Battus 2-0 à l'aller, les joueurs de Didier Deschamps ont refait leur retard grâce à un immense Michael Olise, l'attaquant du Bayern Munich. D'abord auteur d'un but sur coup franc direct à la 52e minute. Ça faisait 7 ans que les Bleus attendaient ça. Marion Olise qui a ensuite adressé une passe décisive à Ousmane Dembélé. 2-0, score final, une prolongation plus tard. Les Français se sont imposés au tir au but grâce à deux parades de Mike Maignan. De quoi combler de joie Dédé? Pas Didier Deschamps, mais Désiré Doué, auteur d'une belle entrée, l'attaquant du Paris Saint-Germain, 19 ans, se souviendra longtemps de sa première sélection.
C'était un match avec beaucoup de suspense, on va dire. Il fallait remonter un score de 2-0, on a su le faire durant le match. Les supporters ont mis énormément d'ambiance et on les remercie, ça a été top. Ils nous ont poussé du début jusqu'à la fin. Quand il y a deux buts à rattraper, forcément, il faut aller les marquer. On ne peut pas être attentif sur le terrain. Et je pense qu'on a essayé de jouer un football qui est le nôtre et on a réussi à le faire ce soir et on ramène la qualification.
Désiré Doué avec Victor Missistrano. En demi-finale de cette Ligue des Nations, la France affrontera l'Espagne qui a écarté les Pays-Bas au tir au but.
Décidément pas mal de tirs au but hier soir. Une phase finale de Ligue des Nations organisée en Allemagne.
La Mannschaft qui a éliminé l'Italie au terme d'un nul 3 partout au match retour. Les Allemands affronteront le Portugal en demi-finale des Portugais, vainqueur du Danemark 5-2 après prolongation. La phase finale se disputera du 4 au 8 juin prochain.
Ce lundi, Antoine Place aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en zone Europe. 6 rencontres de la deuxième journée.
Et notamment celle de l'Angleterre qui affronte la Lettonie après son succès 2-0 sur l'Albanie pour la grande première de Thomas Tuchel sur le banc des Three Lions. Une victoire parachevée par un but d'Harry Kane, l'attaquant du Bayern en grande forme et qui impressionne son milieu de terrain Declan Rice.
He's insane. Honestly, Harry est incroyable. Quand vous voyez comment il travaille, ça fait si longtemps que je le vois s'entraîner. Je l'ai vu jouer tellement de matchs pour l'Angleterre. Et le nombre de fois où il nous a tiré l'affaire avec un but, un triplé ou un doublé. L'autre soir, ce qui m'a plu dans son but, c'est la façon dont il a pris la balle, attendu que le défenseur passe et puis a créé l'espace. Peu de joueurs pensent comme ça et c'était du très haut niveau. Au Bayern, il a atteint pratiquement les 100 buts en 2 saisons là-bas. Au total, il en a marqué 70 pour l'Angleterre. C'est un homme incroyable, un grand capitaine. Je suis sûr qu'il vise la barre des 100 avec la sélection et je pense qu'il peut y arriver.
Angleterre, Lettonie, 19h45, temps universel.
Des éliminatoires de Coupe du Monde qui se disputent également dans la zone Océanie avec la finale des qualifications en cours en ce moment même.
La Nouvelle-Calédonie peut espérer décrocher un billet pour le Mondial 2026. Ça serait un exploit retentissant, mais il faut d'abord que les Néo-Calédoniens s'imposent sur la Nouvelle-Zélande. La rencontre a débuté il y a une dizaine de minutes, 0-0 pour l'instant. À noter que le perdant de ce match aura une deuxième chance grâce aux barrages intercontinentaux.
Le journal des sports avec Antoine Grenier.
RFI Matin.
Aujourd'hui, l'économie avec Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marion.
Et on s'intéresse au Sénégal ce matin. Voilà un an, jour pour jour, que Bassirou Diomaye Faye a été élu président. On dresse un premier bilan économique de son mandat avec vous. Déjà, il faut rappeler Stéphane que Bassirou Diomaye Faye, lorsqu'il est entré en fonction, avait beaucoup d'ambition pour réformer le Sénégal.
Oui, car quand il est arrivé à la tête du pays, la croissance était soutenue aux alentours de 5-6% par an. Le pays attendait les revenus des investissements réalisés sous Macky Sall et notamment dans le secteur pétrolier et gazier. Mais il a dû aussi compter avec une dégradation des comptes publics et un fort taux de chômage, surtout chez les jeunes, situation couplée à un coût de la vie très élevé.
Et justement, très vite, Bassirou Diomaye Faye a joué la carte de la transparence sur le sujet.
Oui, en commandant à la Cour des comptes un audit sur les finances du Sénégal, 10 mois de travail nécessaires avant que les conclusions ne soient rendues publiques. Et elles sont claires, la dette est plus importante qu'annoncée, autour de 100% du PIB. Le déficit budgétaire, lui, est aux alentours de 12% du produit intérieur brut.
Ce qui n'est évidemment pas sans conséquence pour les finances du Sénégal.
Exactement. L'agence de notation Moody's a immédiatement dégradé la note du pays à B3. Deuxième dégradation pour cette agence en seulement quelques mois. De même pour Standard & Poor's. Cela veut dire que si l'État veut emprunter, ça lui coûtera plus cher en raison de taux d'intérêt plus élevés sur les marchés. Et puis les investisseurs étrangers, voyant les notes baisser, peuvent être dissuadés de faire des affaires au Sénégal. Mais l'exécutif assure garder le contrôle de la situation, espère renouer très vite avec le Fonds monétaire international qui a suspendu son programme à la suite des résultats de cet audit.
Bassirou Diomaye Faye a aussi besoin d'une reprise rapide des décaissements pour appliquer son plan.
Oui, le président souhaite que le Sénégal renforce sa souveraineté économique et son indépendance financière. Il entend par là renégocier autant que possible les contrats pétroliers, gaziers et miniers pour que l'État obtienne une plus grande part des revenus. Il envisage une réforme fiscale et a aussi rappelé sa volonté d'abandonner le franc CFA, même si à ce jour aucune mesure n'a été dévoilée. Bassirou Diomaye Faye entend également redonner la priorité à l'agriculture et répondre aux besoins immédiats de sa population locale. Par exemple, en juin dernier, le gouvernement a annoncé la baisse des prix des denrées alimentaires comme le riz, l'huile, le sucre ou encore le pain.
Et toutes ces mesures sont inscrites dans le plan Sénégal 2050. Stéphane, c'est la feuille de route de Bassirou Diomaye-Faye.
Une stratégie notamment tournée vers l'exploitation des ressources fossiles. Le Sénégal espère atteindre une production de 100 000 barils de pétrole par jour et va aussi profiter d'une partie des revenus du champ pétrolier, du champ gazier GTA partagé avec la Mauritanie. Concrètement, grâce à l'argent du pétrole, il veut diversifier l'économie du pays. Bassirou Diomaye-Faye qui souhaite en effet impulser une rupture avec la présidence passée en s'appuyant sur la meilleure valorisation des ressources locales. Transparence et rigueur semblent être ses boussoles. Les promesses, elles, sont fortes et ambitieuses. Mais les défis restent nombreux et le chef de l'État doit trouver un équilibre entre rassurer les investisseurs étrangers, assainir les comptes publics et surtout, Marion, mettre fin à la cherté de la vie.
Stéphane Genest pour aujourd'hui l'économie. On continue ce matin de dresser le bilan de cette première année de présidence. On revient notamment sur ses projets de renégociation de contrats pétroliers avec notre grand invité Afrique Aïb Dafé, secrétaire général du PASTEF. Rendez-vous après le journal de 6h30, temps universel. Pour l'heure 6h20, en temps universel, l'invité international de RFI, Arnaud Pontus, vous recevez ce matin la journaliste et écrivaine ukrainienne Marina Koumeda.
Bonjour Marina Koumeda.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de Kiev. Le sort de votre pays se joue en partie en Arabie Saoudite. Des responsables ukrainiens ont discuté jusque tard hier soir avec les émissaires américains à Riyad. Aujourd'hui, les négociations auront lieu entre Américains et Russes. En tant qu'ukrainienne, journaliste, auteur, qu'est-ce que vous attendez de ces discussions ?
Nous attendions une position peut-être plus ferme des Américains vis-à-vis de la délégation russe, puisque depuis les débuts de ce processus de négociation, nous ne comprenons pas forcément l'objectif final de Trump et de sa délégation. Donc on a senti beaucoup de pression sur l'Ukraine, sur les Ukrainiens, et très peu sur la délégation russe, sur les Russes.
Vous avez le sentiment que Donald Trump a choisi son camp, qu'il joue pour les Russes en fait ?
Il y a quand même ce sentiment qui se diffuse en Ukraine. D'ailleurs, ce que j'ai observé un peu autour de moi, ayant été soumis en plus hier, c'est qu'il y a beaucoup moins de suivi de ce tour de négociation que les appels précédents, où on attendait beaucoup. Puis les dernières déclarations de l'envoyé spécial Steve Witkoff ont encore secoué les Ukrainiens, même si c'est difficile aujourd'hui de les surprendre. Mais il y a quelque part une désillusion, je pense, des efforts des Américains sur ce sujet.
Oui, désillusion vis-à-vis de l'attitude des Américains. Dans votre livre, Journal d'une Ukrainienne, vous écriviez que les Ukrainiens vivent accrochés aux actualités en décryptant chaque événement national ou international. Et vous nous dites que ces pourparlers, finalement, seraient peut-être moins suivis aujourd'hui.
Je pense que en 3 ans, les gens sont aussi épuisés et surchargés. C'est-à-dire que, évidemment, on suit chaque pas, on regarde ce que fait Zelensky, on regarde chaque mouvement sur la scène internationale, chaque annonce au niveau européen, par exemple. Mais en même temps, il y a une fatigue aussi qui se cumule. Donc parfois, les personnes aussi choisissent à se déconnecter. Notamment quand les espoirs ne trouvent pas de
concrétisation, sont déçus. Ouais. Est-ce qu'on a le sentiment autour de vous que l'issue de la guerre se joue malgré tout, peut-être maintenant, peut-être dans les jours qui viennent?
Nous espérons beaucoup ça, mais peut-être si encore les civils y croient, j'ai quand même la sensation que très peu de militaires croient en ça. J'ai discuté avec quelques militaires ces 3-4 derniers jours autour de Soumy, et peu de personnes croient que la guerre, en tout cas le cessez-le-feu, est possible et que la guerre se terminera prochainement. Après, nous n'espérons que ça, pouvoir avoir un réel cessez-le-feu et pouvoir commencer des vrais pourparlers en vue d'une paix durable, d'où le besoin D'où le besoin des garanties de sécurité dont on parle. Et ça, c'est une vraie attente en Ukraine.
Oui. Jusque-là, Marina Koumeda, on parle de trêve de 30 jours. Et jusque-là, les Russes parlent d'une simple trêve des frappes sur les installations énergétiques. Qu'est-ce que cette trêve-là, en particulier, changerait au quotidien des Ukrainiens et à votre quotidien aussi, à vous ?
Finalement, nous n'avons pas tellement de coupes énergétiques ces derniers temps. Après, l'infrastructure énergétique est déjà très touchée par des frappes précédentes depuis un certain temps. Et à nouveau, avec une vague de frappes fin automne, début d'hiver, notre système est épuisé, intense, et ça prend du temps de tout reconstruire et tout rétablir. Donc évidemment, ce serait une bonne chose à avoir. Après, la délégation ukrainienne demandait également la trêve sur les frappes d'infrastructures civiles, et on voit bien que depuis le début de ces négociations, l'annonce de ce cessez-le-feu, les frappes se sont presque intensifiées. Une heure après cette discussion entre Trump et Poutine, il y a une sous-station à Sloviansk qui a été touchée. Hier à Kyiv, une famille a été touchée, un père et un enfant de 5 ans sont morts, et la mère est à l'hôpital. Donc voilà le cessez-le-feu tel que il est appliqué, en tout cas depuis cette première annonce la semaine dernière.
Oui, la guerre continue, ça c'est une réalité. Vous êtes en ligne de Kiev avec nous ce matin, Marina Koumeda, mais vous revenez tout juste de Soumy, hein, vous y faisiez allusion. Soumy, c'est dans le nord-est de l'Ukraine, à quelques kilomètres à peine de la Russie. C'est aussi votre ville natale. À quoi ressemble la ville aujourd'hui ?
La vie à Soumy a beaucoup changé depuis que l'Ukraine a commencé son incursion à Koursk en août l'année dernière. C'est-à-dire que la ville s'est beaucoup militarisée. Nous avons partout des voitures, des véhicules de militaires, voilà, plus ou moins blindés, et énormément de militaires. Donc quelque part, la vie foisonne. Les cafés, les terrasses sont remplies, des militaires en permission ou alors à retrouver leur famille. Et en même temps, en 3 jours que j'y ai passé, on a entendu un avion de chasse, on a des frappes au loin, des bombes planantes. Les deux logements collectifs pour les déplacés et un centre de transit pour les déplacés sont remplis. Il y a un afflux depuis 3 jours, il y a entre 250 et 300 personnes qui arrivent des communes frontalières. Ils sont évacués de force, hein. C'est des personnes âgées, voilà, très peu mobiles, très vulnérables. J'ai aperçu un grand-père de 90 ans qui a tout juste pu attraper sa chienne qui attend une portée. Voilà, c'est déchirant de voir, et c'est des personnes, quand on les demande, ils espèrent pas... Ils ne comptent pas pouvoir retourner chez eux.
Ils n'ont pas un grand espoir. Non. Qu'est-ce qui est le plus difficile après plus de 3 ans de guerre, Marina Koumeda ?
Je pense que le plus difficile reste à voir le prix humain que les Ukrainiens payent. Tous les jours, nous voyons sur nos réseaux sociaux, dans la rue, si on passe au centre... sur la place de la Sainte-Sophie ou même la rue centrale de Soumy, on voit les traces du prix que paient les Ukrainiens, les visages des hommes et des femmes qui sont morts dans les combats, les familles qui perdent leurs proches, et ça, quand on voit les dates de naissance, les métiers, les régions, on se rend compte de ce que l'Ukraine est en train de payer comme prix pour... avoir résisté à la Russie.
Merci beaucoup, Marina Koumeda, d'avoir été en ligne avec nous. Plus personnellement, est-ce que vous espérez la paix ? Est-ce que vous y croyez aujourd'hui, en quelques secondes ?
J'espère, bien sûr. Nous espérons tous. Nous avons été très agréablement surprises. Donc voilà, une des conséquences de l'action de Trump, oui. C'est le réveil de l'Europe, quelque part.
Et, mais il y a l'espoir.
Prise de conscience. C'est ça. Et on espère que ça va se poursuivre.
Merci à vous, Marina Koumeda, en ligne de Kiev.
Le FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société Les écrans de la réalité, du 1er au 5 avril à Douai, offre au public et aux professionnels un panorama de l'actualité internationale. Au programme, projection en présence des réalisateurs, avant-première, débat et exposition photo pour voir et comprendre le monde avec ceux qui le racontent. Le FIGRA du 1er au 5 avril. Plus d'informations sur figra.fr en partenariat avec France Média Monde.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Il a été le finaliste de La Nouvelle École, cette série télé qui met en compétition les jeunes rappeurs. Depuis, Do se fait sa place dans le paysage musical français. Il revient avec un nouvel album, Amazing, 10 titres, plus lumineux mais avec toujours la même énergie.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Camino Real et RFI Talent présentent Tamayo avec The Paris Latin Orchestra en concert. Retrouvez les gardiens de la scène salsa parisienne sur la scène du Romeo Club à Paris le 27 mars à partir de 19h.
Sin limite, la salsa sigue. Sin tempo, sin limite.
Plus d'infos sur la page Instagram Tamayo Musique.